Chapitre 2. Le duc avait procuré à Stein et à sa femme un logement dans une maison de pensionnaire tenue par une famille pauvre mais convenable et honnête. Au moment où il prit possession de l'appartement, Stein avait trouvé dans un meuble dont on lui remit la clé une somme d'argent assez considérable pour surpasser les prétentions les plus exagérées. Un billet y était joint et il contenait les lignes suivantes. Ceci est un juste tribut à la science du chirurgien. Quant aux soins et aux veilles de l'ami, ils ne peuvent être récompensés que par une gratitude et une affection sincères. Stein demeura confondu. « Ah, Maria ! » s'écria-t-il en montrant le papier à sa femme. « Cet homme est grand en toutes choses. Il l'est par son rang, il est également par son cœur et par ses vertus. Il imite Dieu en élevant à lui les petits et les humbles. » Il m'appelle son ami, moi qui ne suis qu'un pauvre chirurgien, et il parle de reconnaissance quand il me comble de bienfaits. Hé, qu'est pour lui tout cet or ? Répondit Maria. Un homme qui a des millions, d'après ce que m'a dit la maîtresse de notre maison, et des terres grandes comme des provinces. Du reste, sans toi, il serait resté boiteux toute sa vie. Le duc entra en ce moment dans l'appartement, et coupant court aux effusions de la reconnaissance de Stein, il dit à sa femme « Je viens vous demander une faveur. Me la refuserez-vous, Maria ?»« Que pourrions-nous vous refuser ?» se hâta de répondre Stein. « Eh bien, Maria, j'ai promis à une de mes meilleures amies que vous iriez chanter chez elle. » Maria ne répondit pas. « Certainement, elle ira, » répondit Stein. Maria n'a pas reçu du ciel un don aussi précieux que sa voix sans contracter l'obligation d'en faire profiter les autres. Nous voilà donc d'accord, poursuivit le duc, et comme Stein est aussi habile sur le piano que sur la flûte, vous en aurez un ce soir à votre disposition, ainsi qu'une collection de partitions des meilleurs opéras modernes. De cette manière, vous pourrez choisir celles qui vous plairont le plus et les repasser, car il faut que Maria triomphe et se couvre de gloire. Sa réputation de cantatrice en dépend. » À ces derniers mots, les yeux de Marie prirent de l'animation. « Chanterez-vous, Marie ? » lui dit le duc. « Et pourquoi pas ? » répondit celle-ci. « Je sais, reprit ensuite le duc, que vous avez déjà vu plusieurs des choses intéressantes que renferment ces villes. » Stein vit d'enthousiasme et il connaît déjà par cœur Séan, Pouze et Zunig. Mais ce que vous n'avez pas encore vu, c'est une course de taureaux. Il me reste là des billets pour celle de ce soir. Vous serez auprès de moi parce que je veux être témoin de l'impression que vous causera ce spectacle. » Peu après, le duc se retira. Lorsque le soir, Stein et Marie arrivèrent à la place sur laquelle avait lieu la course, elle était déjà remplie de monde. Une rumeur profonde et animée servait de prélude au spectacle, comme les vagues s'agitent et mugissent avant la tempête. Ce concours immense, formé par la population de la ville et des environs, cette agitation semblable à celle du sang quand il se précipite vers le cœur dans le paroxysme d'une passion violente, cette atmosphère brûlante et enivrante comme celle qui entoure une bacchante, cette réunion de sympathies qui se confond dans une seule, cette attente fiévreuse, cette exaltation frénétique, contenue d'ailleurs dans les limites du bon ordre, ces cris bruyants, quoique sans grossièreté, cette impatience tempérée par l'inquiétude, cette anxiété qui fait frémir jusque dans le plaisir, tout cet ensemble produit une espèce de galvanisme moral auquel il est impossible de ne pas céder à moins de prendre la fuite. Stein, abasourdi et le cœur serré, se serait enfui volontiers. Sa timidité le retint. Il voyait tous ceux qui l'entouraient pleins de gaieté et d'animation, et il craignait de se singulariser. Dans le cirque rempli par la foule, 12 000 personnes se pressaient, formant d'immenses cercles concentriques. La classe riche était à l'ombre, tandis que le peuple faisait briller aux rayons du soleil les couleurs vives et variées du costume andalou. Dans les grands théâtres sur lesquels sont acclamés la Grise, la Blache, Rachel et Macready, la salle ne se garnit qu'au moment où l'artiste favori va entrer en scène. mais la représentation barbare qui se donne dans cet énorme cirque n'a jamais subi pareille humiliation. L'encombrement cessa au milieu de la place qui devint libre. Alors se présentèrent les Pigadores montés sur leurs malheureux chevaux qui, avec leurs têtes basses et leurs yeux pleins de tristesse, semblaient, et il était en effet, des victimes s'acheminant vers le sacrifice. À l'aspect de ces pauvres animaux dont il prévoyait le sort, l'impression pénible de Stein se changea en douloureuse compassion. Dans les provinces de la péninsule, désolé par la guerre civile qu'il avait parcourue jusqu'alors, il n'avait jamais eu l'occasion d'assister à ces grandes fêtes nationales et populaires dans lesquelles se retrouvent, avec la manière de combattre légère et brillante des Maures, l'intrépidité farouche de la race des Goths. Mais il en avait souvent entendu parler et il savait que le mérite d'une course de taureaux se calcule généralement sur le nombre de chevaux qui y succombent. Sa compassion s'attachait donc principalement à ces pauvres animaux qui, après avoir rendu de grands services à leur maître, contribuaient à les faire briller, leur avoir peut-être sauvé la vie, trouvaient pour toute récompense, quand la vieillesse et l'excès de travail avaient épuisé leurs forces, une mort atroce que, par un raffinement de cruauté, on les oblige à aller chercher eux-mêmes. Leur instinct leur fait pressentir cette mort devant laquelle quelques-uns reculent, tandis que d'autres, plus résignés ou plus abattus, vont docilement à sa rencontre comme pour abréger leur agonie. Les tourments de ces malheureux animaux attendriraient le cœur le plus endurci, mais les amateurs passionnés de ces courses n'ont de regard, d'attention et d'intérêt que pour le taureau. Ils sont en proie à une véritable fascination et elle se communique également à beaucoup d'étrangers, même aux plus prévenus contre l'Espagne et particulièrement contre ce cruel divertissement. Du reste, il faut bien en convenir, et nous faisons cet aveu avec douleur, en Espagne, la compassion pour les animaux est, surtout chez les hommes, un sentiment bien plus théorique que pratique. Et dans les basses classes, ce sentiment n'existe pas. Ah, monsieur Martin, combien vous avez plus de droit à la reconnaissance de l'humanité que beaucoup de philanthropes de notre époque qui font tant de mal aux hommes sans augmenter en quoi que ce soit leur bien-être. Les courses de taureaux plaisent aux étrangers qui, menant une vie dissipée, sont arrivés à la satiété par l'abus des plaisirs. Ces hommes recherchent avidement les fortes émotions dont ils ont besoin, comme l'eau sur le point de geler a besoin d'une forte secousse qui la dégourdisse. Elles plaisent aussi généralement aux Espagnols, hommes énergiques et peu portés à faire du sentiment, et qui, d'ailleurs, sont habitués dès l'enfance à ce genre de spectacle. Beaucoup, d'autre part, y vont par habitude. D'autres, comme les femmes, pour voir et être vues. D'autres, enfin, ne s'y amusent pas. Ils souffrent même, mais ils restent grâce à cette propension des moutons de Panurge dont a été si largement douée notre faible nature humaine. Les trois picadors, précédés des banderilleros et des chulos, vêtus splendidement et portant des petits manteaux aux couleurs vives et brillantes, saluèrent le personnage qui présidait à la représentation. Mais ils étaient éclipsés par les premières épées, primeros espadas, et leurs suppléants, qui portaient des costumes encore plus somptueux. « Pepe Vera ! Voilà Pepe Vera ! » cria la foule. « L'élève de Montes ! Quel beau garçon ! Quel gaillard ! Comme il est solidement campé ! Quelle grâce dans toute sa personne ! Quel regard ferme et assuré !»« Savez-vous, disait un jeune homme assis auprès de Stein, quelle est la grande leçon que Montes donne à ses élèves ?» Il les fait avancer les bras croisés sur le taureau en leur disant « N'aie pas peur de lui !» Pepe Vera s'approcha de la palissade. Il portait un vêtement de satin couleur cerise avec des épaulières et une profusion d'ornements en argent. Des petites poches de la veste sortaient les pointes de deux mouchoirs de batiste. Un gilet en riche tissu d'argent et une gracieuse coiffure en velours complétaient son brillant et élégant costume. Après avoir salué avec aisance les autorités, il gagna, comme les autres combattants, la place qui lui était réservée. Les trois picadors occupèrent aussi les leurs, à égale distance les uns des autres, près de la barrière. Les matadors et les choulots étaient disséminés tout alentour. Alors il s'établit un profond silence, comme si toute cette foule, si bruyante tout à l'heure, avait perdu tout à coup la faculté de respirer. L'alcade donna le signal. Les clairons retentirent et firent lever toute l'assistance, comme feront les trompettes du jugement dernier. Alors, comme par un effet magique, la large porte de l'étable, située en face de la tribune de l'autorité, s'ouvrit. Un taureau rouge se précipita dans l'arène et fut salué par une explosion universelle de cris, de sifflets, d'injures et de louanges. En entendant ce vacarme effroyable, le taureau s'arrêta, éleva la tête et parut demander par ses regards enflammés si toutes ces provocations s'adressaient bien à lui. À lui, robuste athlète, qui jusque-là s'était montré généreux en épargnant l'homme son ennemi, si faible et si petit. Il reconnut le terrain et tourna vivement sa tête menaçante de côté et d'autre. Il hésita encore. Les sifflets devinrent plus vigoureux et plus perçants. Alors, avec une vitesse qui paraissait incompatible avec son poids et son volume, il se précipita vers un picador. Mais il recula en sentant la vive douleur produite par la pique qu'il avait frappée au mufle. C'était un animal étourdi de ceux qu'on appelle, dans le langage des courses de taureaux, hésitant, boyantes. Aussi, ne s'entêtant pas dans cette première lutte, il attaqua le second picador. Celui-ci ne l'observait pas avec autant de vigilance que son prédécesseur. Aussi, son coup de lance, moins sûr et moins ferme, blessa-t-il l'animal sans l'arrêter. Les cornes du taureau disparurent dans le corps du cheval qui tomba sur le sol. Un cri d'effroi s'éleva dans le cirque et au même instant, tous les choulots entourèrent l'horrible groupe. Mais le farouche animal, s'acharnant à sa proie, ne se laissait pas détourner de sa vengeance. En cet instant, les cris de la multitude se confondirent dans une seule et profonde clameur qui aurait rempli la ville de terreur si le bruit n'était venu de la place des taureaux. La situation, en se prolongeant, devenait horrible. Le taureau continuait à s'acharner contre le cheval qui, par son poids et ses mouvements convulsifs, accablait le picador pris sous lui. On vit alors arriver, léger comme un oiseau au brillant plumage, tranquille comme un enfant qui va cueillir des fleurs, calme et souriant, un jeune homme qui semblait tout couvert d'argent, brillant comme une étoile. Il s'approcha du taureau par derrière, et ce jeune homme, de tournure élégante et à l'air distingué, saisissant des deux mains la queue de l'animal, se mit à la tirer à lui, comme si c'eût été un petit chien de salon. Le taureau, surpris, se retourna avec fureur et se précipita sur son nouvel adversaire, qui, sans tourner le dos et rompant en arrière, évita le premier choc par un demi-tour à droite. Le taureau revint à la charge, et le jeune homme esquiva une seconde fois son attaque en se jetant à gauche, continuant ainsi jusqu'à ce qu'il fût arrivé près de la barrière. Là, il disparut aux yeux de l'animal stupéfait et aux regards anxieux du public qui, ivre d'enthousiasme, ébranla les airs de ses applaudissements frénétiques. Car on ne peut voir sans une profonde émotion les hommes jouer ainsi avec la mort, sans forfanterie et en conservant un visage impassible.
Voyez s'il a bien suivi les leçons de Montès. Voyez si Pépé Vera sait jouer avec le taureau, s'écria le jeune homme assis près de Stein, d'une voix tout enrouée à force de crier.
Le duc porta alors son attention sur Marie Salade. Depuis son arrivée dans la capitale de l'Andalousie, ce fut la première fois qu'il remarqua de l'émotion sur cette physionomie froide et dédaigneuse. Jusqu'à ce moment, il ne l'avait jamais vue animée. L'organisation inférieure, grossière de Marie, trop vulgaire pour accueillir le sentiment exquis de l'admiration et trop indifférente ou trop hautaine pour se livrer à celui de la surprise, n'avait rien trouvé encore qui fût digne d'être admiré par elle ou de l'intéresser. Pour tirer parti de ce rude métal et y imprimer quelque chose, il fallait employer le feu et le marteau. Stein était pâle et tout ému. « Monsieur le duc, dit-il d'un air de doux reproche, est-il possible que cela vous divertisse ?»«
Non, répondit le duc en souriant avec bonté. Cela ne me divertit pas, mais cela m'intéresse. » Pendant ce temps-là, on avait relevé le cheval. Mais le pauvre animal ne pouvait se tenir debout. De son ventre entrouvert, les intestins s'échappaient et tombaient à terre. Le picador était également debout, s'agitant entre les bras des choules, furieux, voulant à toute force, avec une aveugle témérité, et malgré l'étourdissement que lui avait occasionné sa chute, remonter à cheval et recommencer l'attaque. Il fut impossible de l'en détourner, et il remonta en effet sur la malheureuse victime en enfonçant les éperons dans ses flancs déchirés. « Monsieur le duc, » dit Stein, « je vais peut-être vous paraître ridicule, mais il m'est impossible d'assister plus longtemps à ce spectacle. Maria, veux-tu que nous nous en allions ?»« Non, » répondit Maria, dont toute l'âme semblait concentrée dans ses yeux. « Me prends-tu pour une femmelette et as-tu peur que je me trouve mal ?»« Eh bien alors, » dit Stein, « je reviendrai te prendre après la course. » Et il s'éloigna. Le taureau avait déjà culbuté bon nombre de chevaux. Le malheureux dont nous venons de parler s'en alla, les entrailles pendantes, en se laissant conduire par la bride, jusqu'à une porte par laquelle il sortit. D'autres qui n'avaient pu se relever gisaient à terre dans les convulsions de l'agonie. Par moments, ils soulevaient leur tête où la terreur était peinte. À ces indices de vie, le taureau revenait à la charge, déchirant de nouveau de ses cornes cruelles les membres brisés, quoique palpitant encore, de sa victime. Puis, le front et les cornes couverts de sang, il se promenait autour du cirque avec un air de provocation et de défi, élevant quelquefois la tête vers les gradins, d'où partaient des clameurs sans fin, ou vers les brillants choules, qui passaient comme des météores, en dardant sur lui leurs javelots garnis de petites banderoles. Parfois, d'un filet caché dans les ornements de la banderole, s'échappaient quelques petits oiseaux, heureux de recouvrer leur liberté. Qui a eu le premier l'idée de produire ce singulier contraste? Celui-là n'a certes pas pu avoir l'intention de symboliser l'innocence sans défense, s'élevant au-dessus des horreurs et des passions sauvages de la terre. N'est-ce pas plutôt une de ces inspirations poétiques qui germent spontanément, même dans les cœurs les plus durs et les plus cruels du peuple espagnol, comme une plante de réséda fleurit souvent en Andalousie dans les interstices des pierres d'un balcon? Sur un signal du président, les clairons retentirent de nouveau. Il y eut un moment de trêve dans cette lutte acharnée et le silence se rétablit. Alors Pepe Vera, avec une épée et un petit manteau rouge dans la main gauche, se dirigea vers la loge de l'Ayuntamiento. Il s'arrêta quand il fut en face et salua comme pour demander la permission de tuer le taureau. Pepe Vera venait de remarquer la présence du duc, dont le goût pour les combats de taureaux était bien connu. Il avait également remarqué la femme qui était auprès de lui, parce que cette femme, à laquelle le duc parlait fréquemment, ne perdait pas un instant de vue le matador. Celui-ci se dirigea vers le duc et se découvrant, « À l'honneur de votre excellence, dit-il, et de la belle personne qui est à ses côtés. » Et en disant ces mots, il jeta à terre sa coiffure, puis partit pour se rendre où l'appelait le rôle qu'il avait à remplir. Les choules le regardaient attentivement, prêts à exécuter ses ordres. Le matador choisit la place qui lui parut la plus convenable, puis l'indiquant à sa bande, « Ici !» leur cria-t-il. Les choules coururent vers le taureau pour l'exciter, et celui-ci, se mettant à leur poursuite, se rencontra face à face avec Pepe Vera, qui l'attendait de pied ferme. Le moment solennel de la course était arrivé. Un profond silence succéda au tumulte effroyable et aux excitations violentes qu'on avait prodiguées peu d'instants auparavant au matador. Le taureau, en apercevant ce faible ennemi qui s'était joué de sa fureur, s'arrêta comme pour réfléchir. Il craignait sans doute qu'il lui échappât de nouveau. Quelqu'un qui serait entré dans le cirque en ce moment n'aurait pas cru assister à un divertissement public, mais bien plutôt à une cérémonie religieuse, tant le silence était profond. Les deux ennemis s'observaient mutuellement. Pepe Vera agita la main gauche. Le taureau s'élança sur lui. Le toréador, sans faire autre chose qu'un léger mouvement, s'effaça et se retourna, de manière que, lorsque la bête furieuse revint à l'attaque, il dirigea son épée entre les deux épaules,
si bien que l'animal, en continuant son élan, aida puissamment le fer à entrer jusqu'à la poignée. Alors il tomba sans vie sur le sol. Il serait impossible de décrire l'explosion générale de cris et d'applaudissements qui retentit dans toute la place. Ceux-là seuls qui ont l'habitude d'assister à de semblables scènes peuvent le comprendre. Au même moment, la musique militaire se fit entendre. Pepe Vera traversa tranquillement le cirque au milieu de ces témoignages frénétiques d'admiration passionnée et de cette unanime ovation, saluant avec son épée à droite et à gauche en signe de reconnaissance, sans qu'un triomphe que plus d'un empereur romain lui eût envié, parut exciter en lui ni surprise ni orgueil. Il alla ensuite saluer l'ayuntamiento, puis le duc et sa belle compagne. Le duc remit en cachette une bourse pleine d'or à Maria, qui, l'enveloppant dans son mouchoir, la jeta dans l'arène. Lorsque Pepe Vera fit un nouveau signe de remerciement, ses yeux noirs se croisèrent avec ceux de Maria. En parlant de la rencontre de ses regards, un écrivain classique dirait que Cupidon avait frappé ses deux cœurs avec autant de sûreté que Pepe Vera le taureau. Nous, qui n'avons pas l'audacieuse prétention d'appartenir à cette école sévère, nous nous contenterons de dire que ces deux natures étaient faites pour se comprendre et sympathiser l'une avec l'autre, et qu'en effet, elles se comprirent et sympathisèrent ensemble. Du reste, il est vrai de dire que Pepe Vera avait été admirable. Tout ce qu'il avait fait dans une situation où il se trouvait entre la vie et la mort avait été exécuté avec une adresse, une désinvolture, un calme et une grâce qui ne s'étaient pas démentis un seul instant. Et pour cela, il faut qu'à un courage qui ne redoute rien, vienne se joindre un degré d'exaltation qui ne peut être produit que par 24 000 yeux qui regardent et 24 000 mains qui applaudissent.